Parce qu'en réalité, on appelle ces journées entre les étroitesses. Ben Hametzarim. Ça veut dire qu'il y a deux étroitesses. 2 degrés et 3 dans l'année. Le 17 Tammuz et le 9 Av. Et entre les deux, il y a 21 jours, 3 semaines. Si on appelle ces jours-là entre les étroitesses, ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Les étroitesses au pluriel égale 2. Donc il faut comprendre ce que représente le 17 Tammuz et ce que représente le 9 Av. Et si j'arrive à réparer les deux notions, je répare toutes les brisures possibles qui sont après que des conséquences de ces deux brisures de base. Alors la première brisure, c'est aujourd'hui. Les sages nous disent dans la Mishnah que 5 choses se sont brisées en fait dans notre vie ce jour-là. La première des choses, c'est dans la Mishnah de Ta'anit, au chapitre 4, la Mishnah 6. Les sages nous disent 5 choses se sont réalisées, faites. Il y a eu 5 choses, pas dans la même année, hein, à plusieurs générations différentes. Hein. Certaines au moment du deuxième temple, d'autres dans le deuxième temple. Et donc, il s'est passé 5 choses. Ça veut dire déjà qu'il y a un ordonneur. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu nous fait des choses négatives toujours dans les mêmes dates, c'est qu'il ordonne l'histoire. Donc c'est déjà quelque chose qui nous rassure. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas abandonnés complètement, il nous a même ciblé, entre guillemets, le mal dans cette journée-là. Regardez comment d'un degré négatif, on peut trouver un point positif. D'accord ? Déjà d'une. Ça veut dire qu'il nous a rassemblé le mal, l'angoisse, ce jour-là. Comme ça, au moins, le reste, c'est content. Okay ? Mais, avant de tomber dans l'angoisse immédiatement, parce que c'est une nature humaine, on oublie pourquoi, par exemple, la première des choses, de ces 5 choses, c'est que les tables se sont brisées. Alors, immédiatement, nous, on prend la solution facile. Le résultat, les tables se sont brisées. Mais pourquoi tu ne dis pas que les tables ont été données ce jour-là? Ça devient plus intéressant quand même. Elles se sont brisées, d'accord. Mais Dieu avait prévu de donner les tables ce jour-là. Or, qu'est-ce que c'est que ces tables? Mais c'est le fait de prendre les idées les plus élevées qui soient, de les graver dans des tables, en pierre, et de les donner au monde. Je résume, ce jour-là était prévu par l'infini pour coller à la matière, pour descendre sur terre, pour se dévoiler concrètement sur terre. Donc c'est le jour le plus joyeux qui soit. Ah, toi tu as raté, parce que tu n'étais pas prêt à recevoir. Et pourquoi tu n'étais pas prêt à recevoir? Pourquoi tu n'étais pas prêt à ce que Dieu grave ses idéaux les plus infinis dans ta vie? Tu avais peur peut-être que Dieu descende sur terre, qu'il t'embête un petit peu, qu'il te donne des choses à faire qui ne t'arrangent pas trop, qu'il te demande de faire des choses qui ne t'arrangent pas trop aujourd'hui. Hein? Par exemple, monter en terre d'Israël, c'est une loi de la Torah, mais ça ne m'arrange pas trop pour l'instant, je trouve des combines, des machins. Ah, Shabbat, d'accord, la cacheroute, d'accord. Mais ça gêne. Alors, tu n'es pas honnête. Si tu es honnête, du début jusqu'à la fin. Tu ne peux pas prendre la Torah et faire des combines, une salade qui te convienne à toi. Et le reste, tu te dis. Je préfère encore les gens qui me disent non, je n'ai pas envie. Je n'y crois pas. C'est tout. Que des gens qui me disent oui, tu sais, il paraît que mon ravi m'a dit qu'il y avait plein de combines, que tu peux rester encore, continuer ton exil. Alors Dieu, il est pressé déjà d'apporter le Mashiach, et toi, tu fais traîner tout le processus en restant dehors. Alors il faut arrêter. À un moment donné, il faut être sérieux dans l'étude de la Torah. Il faut arrêter de jouer avec les valeurs de l'infini. Le degré de la brisure, c'est le premier des 5. Tout à fait. C'est une très bonne question. Pourquoi c'est une très bonne question? Parce que tout simplement, les sages ne nous ont pas donné les 5 degrés n'importe comment. Ils nous ont donné un ordre, mais pas seulement un ordre au niveau historique, un ordre au niveau de l'importance des choses. Plus tu es premier, plus tu englobes le 2, le 3, le 4 et le 5 et tout le reste. Je veux dire par là que toutes les crises, toutes les angoisses que vous allez avoir dans votre vie, tous, sans aucune exception, viennent à cause de la brisure de ces tables. C'est ce qu'on appelle Av Tipus en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Av Tipus? C'est comme une matrice. C'est la matrice qui gère le tout. Donc si je n'ai pas compris ce premier degré, mais je ne vais pas comprendre tout le reste. Le reste, je vais vous le citer. Boutal Hatamid. Un korban, un sacrifice qui se faisait d'une manière journalière, tous les matins et tous les après-midi. Sans arrêt. Ça aussi, ça a été annulé. Un jour de 17 Tammuz. Troisième chose, Ouvkea Haïr, la muraille de Jérusalem, a été percée. À une autre période, mais toujours le même jour. Ça aussi, c'est une conséquence du fait que le Tamid, écoutez bien, il s'appelle le Tamid, le toujours, le Corban du toujours, permanent. Et lui, est à cause de la brisure des vases, je reviens toujours, la brisure des tables. Je continue, et après je vais rentrer dans le détail, et vous allez comprendre en réalité l'importance des choses. Quatrième chose, Apostemos, c'est un homme, un romain, a brûlé la Torah, ce jour-là. Il y a eu une petite bataille dans un endroit d'Eretz Israël qui s'appelle Beth Horon. C'est entre, pour aller vers Jérusalem, à côté de Modi'in. Là-bas, les Romains sont rentrés dans la ville, dans le petit village, et d'une maison à maison, ils ont essayé de fouiller pour essayer de trouver des Juifs pour les tuer. Et ils ont trouvé un livre de Torah, ils l'ont brûlé. Les sages ont mis ça à l'intérieur. Ils nous disent, c'est pas anodin, c'est pas une histoire comme une autre, par hasard. Il y a quelque chose. Et c'est pour ça que je mets ça dans ma liste. Cinquième et dernière chose, Wamad Selem Bahechal. On a mis une statue à la place, en réalité, de ce que représente Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans le Hechal, dans le sanctuaire. Aussi, 17 Tammuz.
Non, mais quelle année, genre?
Ah! C'était 586 avant la destruction, avant l'ère chrétienne. D'accord ? Maintenant, je reviens petit à petit. Il y a donc cinq cercles, c'est ce que j'en train de vous faire comprendre. Cinq cercles qui évoluent par rapport à la brisure. C'est comme si j'ai jeté une pierre dans l'eau et ça commençait à faire des cercles autour. D'accord ? Ça veut dire que la première des choses, la plus grave, c'est la brisure des vases. Des tables qu'on appelle comme la brisure des vases. Quand je dis des vases, c'est avant la création du monde, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. On a toujours un problème avec ça. Pourquoi ? Parce que quand il y a, d'une manière normale, j'allais dire presque naturelle, un contact entre l'infini et le fini, étant donné qu'il y a encore un décalage, il y a explosion, il y a quelque chose qui se passe. Alors posez-moi la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, s'il sait qu'il y a encore un décalage, il les donne? Parce que c'est une manière d'enseigner. Il ne faut pas avoir peur. Quand je viens vous donner un cours, il ne faut pas que j'ai peur de vous casser un peu. Parce que ça fait partie de l'éducation et du cours lui-même. Si tu ne te brises pas, tu ne pourras pas jamais te construire. Si tu continues à développer ton système de réflexion sans jamais être ouverte à quelque chose de nouveau, ben tu n'évolueras pas vraiment. Tu seras dans un système, petit à petit, avec des petites montées, parvées, très gentilles, très cool, mais tu ne fais pas le travail qu'on te demande. Alors tu peux t'endormir très facilement. Et les sages dans la Torah nous disent, c'est pas comme ça qu'on étudie. Quand tu veux étudier, tu dois sortir de ton contexte. C'est Ulmad. Incroyable ça. Sors et étudie. Pourquoi tu dis pas, va étudier? Non, sors. Sors de quoi? De moi-même. De mon système de réflexion, de mon système de pensée, de ma manière à moi d'appréhender les choses. Peut-être qu'il y a une autre manière que je ne connais pas. Non, moi je suis bloqué dans un système têtu et toute autre tendance me perturbe, je ne veux pas écouter. Ça, c'est pas l'étude sérieuse de la Torah. Faut que je sois ouvert à tout. Faut que j'entende tout. Au moins deux sons de cloche. C'est pour ça que j'ai deux oreilles. Pour entendre un sens et un autre sens. Sinon, je suis dans l'un des sens. Hein? Ça veut dire qu'il y a ici un problème. Il faut être capable d'être ouvert, d'être souple.
Est-ce qu'on doit choisir quand on entend un
oui.
sens, un autre
oui.
sens, on doit choisir?
Oui, c'est-à-dire tu dois accepter que l'autre est vrai, mais moi, mon cœur me pousse vers cette tendance. C'est ce Rav qui me parle le plus. C'est lui que je dois choisir. Et la Torah me dit ça. C'est pas que moi, Yoël, qui est en train de vous dire, qui suis en train de vous dire ça. Okay? C'est en réalité de makom chez libo chafé. En adam lomed ela be makom chez libo chafé. C'est-à-dire un homme, une femme ne peut pas étudier si ce n'est à l'endroit avec le Rav que son cœur l'attire vers lui. C'est lui. Donc il faut que tu te choisisses dans ta vie un Rav, une tendance qui représente ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que les autres sont fausses. Mais moi, ma manière à moi, elle est de comme ça. Mais je respecte les autres. Tant qu'ils ont un seul but, c'est de révéler l'infini dans ce monde, je suis certain qu'il y a des milliards de possibilités. Mais il y en a une qui m'attire à moi particulièrement. Donc j'ai choisi mon Rav. Sans, Chas v'Shalom, parler du Lashon Hara de l'autre. Et ça, on n'arrive pas à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai une tendance, l'autre, c'est de la zut. Chas v'Shalom. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas, toi, avec ton ego et ton arrogance, croire que tu as la force de recevoir la vérité absolue par un degré que tu représentes toi. Ce n'est pas possible. L'infini se développe et se dévoile et se répand comme un corps humain. C'est comme si le pouce venait aujourd'hui dire « Moi, je suis le seul qui ait compris. Vous, vous n'avez aucune place dans ce monde. » Ça ne veut rien dire. Le pouce a conscience qu'il faut un autre doigt, et un autre doigt, et un autre doigt, et une oreille, et un œil. Eh bien, ça, c'est toutes les tendances. Mais moi, je suis attiré par une d'entre elles. Et cette tendance-là, il ne faut pas que je la lâche. Parce que sinon, je ne sais plus où j'en suis. Je suis toute la journée à droite, à gauche, machin, j'ai entendu, lorsqu'il a dit, un rabbi l'a dit, machin, ma grand-mère, et je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être sérieux dans l'étude, il faut se prendre une ligne, en respectant, en étant ouvert à tout le reste, et avoir des discussions avec les autres. Et des deux, va sortir encore un troisième élément qui est encore plus fort que nous deux. C'est comme ça l'étude. Ça, c'est une étude sérieuse. Donc, il ne faut jamais repousser quoi que ce soit, mais il faut discuter. Les Chachamim discutent entre eux, avec des références. Et, selon les références, eh bien, je peux changer d'avis, il m'a prouvé certaines choses. C'est ce qu'on fait dans la yeshiva. Il y a 500 personnes qui discutent et qui presque se disputent avec 500 autres. Et tu as l'impression qu'ils vont se casser la figure, tellement ils crient. Tu rentres, tu te dis, mais ils sont pas normaux, les mecs. Tiens. Tu rentres dans une bibliothèque, tout est silencieux. Tu rentres dans une yeshiva, on dirait qu'ils vont mourir. Mais c'est comme ça. Parce qu'ils sont tous dans le feu du dévoilement de la vérité absolue. Et cette vérité, je suis conscient qu'elle ne peut pas venir par moi parce que je ne suis qu'un secteur, un fractal. Il y a toi, il y a elle, il y a lui, il y a l'autre, il y a plein. Donc je porte moi, mon fragment. Et le rassemblement de tous, c'est le dévoilement de la vérité. Donc j'ai besoin de tout le monde, même de ceux qui ne me ressemblent pas. Et ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas sa tête couverte qu'elle ne vaut rien. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas de kippa ou n'a pas de tzitziot qu'il n'est plus dans le coup. Ça ne veut rien dire tout ça. Faire très attention à ça. C'est vrai ? Vous, vous avez choisi une tendance, vous avez choisi un kivoun, c'est bien. Mais respectez l'évolution de l'autre et la prise de conscience de l'autre. On n'était pas tous ce qu'on est aujourd'hui, ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
En fait, on tend tous vers la même chose.
Exactement.
Mais on a un rythme différent.
Exactement. Et il faut respecter, c'est comme un train. Il y a beaucoup de wagons. Il y a des gens qui sont au dernier wagon, il y a des gens qui sont au premier wagon, mais tout le monde arrive en même temps. Hein.
Il y a des gens qui ont l'air d'être au dernier, en fait,
ils exactement. Exactement. Il faut arrêter d'être orgueilleux et de croire que moi, je suis venu comme enseignant. Moi, quand je viens ici donner un cours, je viens pour apprendre aussi, pour, par rapport à vos réflexions de ce que je suis en train de dire, je me remets aussi en question. Je réétudie, je continue à développer mon étude. Si je venais comme un conquérant qui vient donner son cours, et vous fermez là, c'est pas ça la Torah, Chas v'Shalom. D'accord ? Donc je viens toujours autant étudier qu'enseigner. Et ça se voit tout de suite dans l'expression de l'enseignant. Ou bien tu as l'impression que moi je sais tout, tu vois tout de suite sur sa figure, sur sa manière de faire, ou bien tu sens l'humilité. Mon cher Rabbeinu, c'est notre plus grand Rabbeinu. C'est l'homme le plus humble qui soit. Et la Torah le dit, « Ve'aish Moshe anav me'od ». Il n'y a pas plus humble, plus simple que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il reçoit toute la Torah. Maintenant, je vais essayer de développer ce système-là, de cette brisure. Les tables, où est-ce qu'elles se trouvent, ces tables, qui se sont cassées, hein? Les premières tables, vous savez qu'il y en a eu des deuxièmes. Donc, les premières tables se sont cassées, le 17 Tammuz. Où est-ce qu'on les a mis? On les a jetées à la poubelle? Il y a des morceaux, et elles sont où? Dans le Haron, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. C'est bizarre, quand je reviens. Toi, si tu as un truc, tu as reçu, qui s'est cassé, tu le mets dans le Saint des Saints? Pourquoi? Ah, ça veut dire que tu reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Même si la première injection, le premier contact entre nous te crée une petite brisure, c'est pas grave. Garde-le dans ton Saint des Saints. Ça fait partie de l'étude. Sache que, d'une manière normale, quand Dieu descend sur terre, entre guillemets, lorsqu'il se dévoile, ça crée des perturbations, ça crée un tremblement, ça crée quelque chose qui nous change. C'est normal. Moralité, toute la vie est faite de brisures. À partir du moment où tu sais que toute ta vie, c'est un ensemble de chutes, mais que tu dois te relever et continuer, t'es vachement plus rassuré. Tu t'attends pas à une vie tranquille et tu te poses pas la question, mais pourquoi tout le temps il y a des problèmes? Ça fait partie de ta construction. La première des choses, je te donne un axiome de base. Sache que quand je donne quelque chose de très élevé, lorsque tu vas faire quelque chose de très important dans ta vie, ça va passer par des difficultés. Et si ça ne passe pas par des difficultés, fais-toi du souci. C'est exactement l'inverse. Ça veut dire que quand tu as pris la décision de monter en Israël, si ça se passe tranquillement, qu'il n'y a pas des choses qui viennent t'embêter, machin, c'est pas normal. Ça fait partie parce que tu es en train de changer, tu as pris conscience d'un certain degré. Et ça fait partie de ce dévoilement. Tu es obligé de te tâcher quand tu fais quelque chose. Je dessine, je suis obligé de me tâcher. Mais ça ne veut pas dire que mon œuvre ne va pas être belle. Je sors du studio, il y a encore des traces. Mais c'est la même chose. Quand j'étudie, il y a des traces. Quand je vais à un séminaire, le premier soir du séminaire, je vous le dis, la vérité, hein, tout le monde va et pleure toute la nuit. Parce que je leur casse, entre guillemets, un système dans lequel ils se sont reposés tranquilles. Je viens, je remets en question, mais intelligemment, hein. Pas parce que je suis intelligent, parce que j'utilise une Torah intelligente, qui remet en question, et il commence à se poser de vraies questions. Parce qu'on a tendance tous à se faire des petites remises.
Mais c'est quoi des vraies questions?
Les vraies questions, c'est tout simplement, est-ce que tu es sûr que le 17 Tammuz est un jour de deuil? Par exemple. Pourquoi, dans ta tête, immédiatement, c'est le malheur? Alors que les sages nous disent, alors, revenons à l'étude. Peut-être quand t'as enseigné quelque chose, t'as compris quelque chose, que, je ne sais pas, ça t'a traumatisé dans ta jeunesse, lorsque t'as eu pour la première fois une étude ou une compréhension du 17 Tammuz, voilà, tes parents t'ont dit qu'il faut pas rentrer dans l'eau parce que c'est dangereux, les gens vont mourir entre le 17 Tammuz et le dessin, il y en a qui appellent ça le couteau dans l'eau, des trucs... Okay? D'accord, je suis d'accord, j'accepte, je reçois. Mais maintenant, je veux étudier. Moi, ce que les Chachamim nous ont dit. Ok? Au moment où la Torah est donnée d'une manière virtuelle, on te parle. Ça, c'était le don de la Torah, pas le 17 Tammuz. Quel jour c'était? Le Sissiban, Shavuot. On est rentré à la maison, ou dans les tentes, sans avoir reçu aucune matière. La première fois où il y a une matière maintenant qui descend sur terre, c'est le 17 Tammuz. Et les sages nous disent que c'est beaucoup plus élevé que Shavuot, ce que Shavuot, Dieu a parlé. D'accord, t'as entendu. Tu rentres chez toi, je ne sais pas combien de temps tu vas te souvenir de ce qui a été dit, même si ça t'a marqué, même si ça t'a bouleversé, t'es rentré dans un cours, waouh! Ok, deux jours après, on est d'accord, hein? Il n'y a plus rien. Mais là, on va à la maison avec des morceaux de pierre qui se sont cassés. T'as cassé quelque chose qui est venu du divin. Alors d'un côté, t'as pas honte, mais de l'autre côté, waouh! Le divin a gravé sa pensée dans une matière que je peux toucher, que je peux mettre dans une armoire. C'est-à-dire, même moi qui suis en train de vous donner le cours, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Que l'infini ait un souci de me graver des idées, 10 paroles, dans des pierres, et me les donner. C'est énorme, c'est énorme. Il y a une nation qui peut inventer une histoire pareille. L'infini descend sur terre, il a vraiment un souci de nous donner ça. Et je les garde, parce que je me dis, écoute, même si tu t'es cassé le premier jour où ça a été donné, c'est normal, c'est normal. Alors pourquoi il les a donnés s'il savait très bien que j'allais les casser? Parce que ça fait partie de ta vie. Sache que les premiers contacts, ça fait mal. Ça casse quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que je vous donne une information subliminal, caché, que ce jour-là est très important. Et pourquoi il est très important? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les sages nous disent que Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah, c'est aujourd'hui. Le vrai Rosh Hashanah, le saviez-vous? Non. Ça, c'est l'étude de la Torah. Maintenant, on commence à devenir sérieux. Les Chachamim nous disent que les fêtes telles que nous les fêtons aujourd'hui, regardez, je vais vous mettre encore une gifle, il y a tout qui va se casser, c'est pas du tout les dates de l'origine. Ça ne correspond pas du tout. Par exemple, Rosh Hashanah, ça devait être aujourd'hui, Tammuz. Yom HaKippurim, le 9 av. Sukkot, le mois de Elul, et Tishré, Simchat Torah. Une seule fête, il y avait à Tishré. Pas comme aujourd'hui, tout assemblé, tu sais même plus qui a fait à manger, combien de repas, qui contre qui la guerre. Quel? Rosh Hashanah, deux jours après, Sukkot, Yom HaKippurim, je sais plus. C'est pas normal, tu vois bien que c'est pas normal. Tout ça a été poussé à cause du 17 Tammuz, où Dieu a décidé de donner la Torah dans des pierres, qui était le premier jour de l'année, et comme tu as fait un veau d'or, au moment où il t'a donné cette Torah, on a tout repoussé. On a tout coincé au mois de Tishré. On y arrive. Mais c'est très important. Repousser, parce que tout simplement, tu n'es pas capable de vivre Rosh Hashanah, ton véritable niveau, je ne peux pas te le donner maintenant. Donc on va te le reprocher. Si j'ai poussé Rosh Hashanah, j'ai poussé celui qui était derrière Kippour, donc j'ai poussé celui qui était encore derrière Sukkot, et tout a été coincé au mois de Tishré. Parce que tout simplement, le mois de Tishré va, avec maintenant la prise en compte de la faute, va devenir le mois de la Teshuvah, de la réparation la meilleure possible. Donc on nous a tout coincé dans un mois. Mais ce n'est pas comme ça à la base. Il y a fait. On va revenir. À la fin des temps, tout va revenir à l'initial, à ce qui était au départ. Par exemple, la façon de faire les mitzvot aujourd'hui, vous croyez que les mitzvot vont rester éternellement? Pas du tout. Elles aussi, elles vont être annulées, puisque ce sont que des moyens. Ce ne sont pas des buts. Et une fois que la lumière sera tellement dévoilée, nous disent les chachamim, mitzvot atidot liitbatel. Les mitzvot vont être annulées du monde. Alors les gens qui n'en peuvent plus, parce que pour eux, il n'y a que mitzvot, 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 ils vont devenir fous. Okay? Ça veut dire en réalité, ils ne servent pas Dieu, ils servent la religion. Comprenez ça? Les gens, ils sont complètement à l'ouest. C'est devenu des religieux, des tarés. Okay? excusez-moi les expressions, quand j'appelle des tarés, ça veut dire au lieu de servir l'infini, ils servent les moyens. Les moyens, ça peut être une mitzvah. Je ne sers pas la mitzvah. La mitzvah n'est qu'un canal par lequel je fais circuler des valeurs de l'infini. Il faut redevenir intelligent, réfléchissez un petit peu. D'accord ? Ce n'est pas les mitzvot qui font de moi un juif. C'est pas parce que je fais Shabbat que je suis juif. C'est l'inverse, c'est parce que je suis juif que je fais une mitzvah. Ça change complètement le visage du judaïsme. Vous voyez des gens qui ne mangent pas kasher, vous dites « tu as, c'est un goy ». Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans. Je suis né en Israël, je suis arrivé en France. Je n'avais pas la kippa sur la tête, je suis rentré dans une école juive. J'ai entendu deux garçons. Regarde, regarde, c'est des goy. Il y avait moi et ma sœur. Des goy. Okay? Parce que je n'avais pas la kippa sur la tête, j'étais un goy. Alors que je savais en Torah, en hébreu, et en tout ce qu'il savait, 10 fois plus que le Rav, pas que lui. Mais il n'y a pas de référence. Tu ne sais pas. Et donc tu comptes sur le petit bon Dieu intermédiaire, le rabbin. Pendant un mariage, vous croyez que le rabbin, il doit être là. Normalement, c'est Dieu qui fait le lien entre toi et ton mari. Qu'est-ce qu'il vient faire le rabbin au milieu ? Mais c'est parce que vous ne savez pas faire ça que vous avez pris un intermédiaire qui fait le travail. C'est tout. Mais ce n'est pas le rabbin qui doit faire les choses. Ce n'est pas un moël qui doit venir couper le petit bout de mon fils. C'est moi, le père. Mais comme je ne sais pas, j'ai pris encore un intermédiaire. C'est pareil. Et dans toutes les mitzvot, c'est pareil. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça le judaïsme, comme aujourd'hui. Kippour, qu'est-ce que tu fais ? Tu as l'impression que c'est Tisha B'Av version septembre, octobre, okay ? Et tu arrives angoissé, machin. Vous savez ce que c'est Tisha B'Av ? Est-ce que c'est Yom HaKippouri ? C'est les jours les plus joyeux de l'année. Les deux. Les deux, Tisha B'Av aussi. Ben, bataille. Dans la source. Ils sont joyeux. T'as pas été capable de recevoir ce que je voulais te donner. Qu'est-ce que je voulais te donner le 9 av? La terre d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 av? Les explorateurs ont commencé à râler, à parler du mal de la terre. Voilà les deux étroitesses desquelles je suis en train de parler. Deux étroitesses. T'as pas envie que Dieu descende sur terre, se grave dans la matière de ta vie. Et t'as pas envie de rentrer en terre d'Israël. Et après tu viens me faire style je jeûne, Tisha B'Av, machin. Mais pourquoi tu jeûnes ? Tu as la possibilité aujourd'hui de réparer ça et tu continues à rester dans ton exil. De quoi tu parles ? T'as pas honte ? Mais va dire ça dans un cours, tu choques.
Mais si c'était pas triste, il nous aurait pas fait jeûner.
C'est triste parce que tu n'as pas compris l'essence de la chose. Mais va dire. Juste pour te dire que le premier temple a été construit par le roi Salomon et qu'il a été inauguré Yom HaKippouri et que personne n'a jeûné ce jour-là. Parce que pourquoi ? Parce que pour le roi Salomon, c'est une réparation, on est rentré en terre d'Israël, ça y est, on est arrivé, il y a le temple de Jérusalem, c'est fini tout ça. D'ailleurs, la Torah, elle te dit elle-même, Tsoma Revi, Vetsoma Chamishi, Vetsoma Asiri, Atidim Leitbatel Veliyot Yamim Tovim. Tous les jours qu'on est en train de vivre maintenant avec l'angoisse, ça va devenir des jours les plus joyeux. Pourquoi ? Parce que quand on va être, oui, capable de recevoir ce qu'il y a réellement dans cette journée, tu n'as plus raison d'être triste. Parce que tu as compris, tu as réparé, c'est fini. Dieu n'est pas un Dieu punisseur. C'est un Dieu qui veut te donner des lumières, mais toi tu n'es pas capable de le recevoir, donc ça te fait une brisure chez toi. Mais c'est pas grave, moi Dieu, je n'ai pas changé puisque je ne change pas. Ce jour-là, il est toujours dans son potentiel initial. Donc le 9 av, tu dois faire tchouva de quoi ? De la terre d'Israël. Tu dois dire toute la journée, terre, je t'aime. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir fait venir ici. Ça, c'est Tisha B'Av. C'est pas de pleurer, Zama, et tu fais des tachanoun, tu sais même pas pourquoi. Parce que comme des malheureusement, malheureusement, et oui, mais on pleure justement sur le bâton. La destruction du temple, c'est quoi ? c'est une conséquence. Mais elle est où la cause? C'est comme un chien, tu le frappes, il mord qui? Le bâton. Arrêtez. Il y a des akalot. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le voir. Je ne sais pas si vous allez au Kotel le soir de Tisha B'Av. C'est plus du tout ce que c'était avant, il y a 2000 ans. Il y a plein de jeunes assis par terre, presque, ils sont en train de... Il manque juste la guitare. Oui. Parce que c'est naturel, ils comprennent qu'on n'est plus dans la même situation. Tout est en train de changer. Rester dans le même état de deuil, c'est tout simplement nier que quelque chose s'est passé, qui est en train de se passer devant tes yeux. C'est de l'ingratitude à l'état pur. Tu ne peux pas être ingrat.
Le fait qu'il y a des juifs en diaspora, est-ce qu'on n'en a pas aussi besoin?
Non. Ça, c'est des créations nouvelles de systèmes géopolitiques que vous êtes mis dans la tête. La Torah, elle dit une seule chose. Kitavo elav. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. C'est tout. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi ni un prophète. Dieu. Ele achukim v'amishpatim asher tziviti etchem la'asot ken bekerev haaretz. Voici toutes les mitzvot, les lois que vous comprenez et celles que vous ne comprenez pas, que je vous ordonne pour faire sur la terre que je vous ai donnée. Bou urshu et haaretz. Venez conquérir cette terre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Après, tu peux t'inventer des trucs. Parce que tu es assise là-bas et tu n'as pas envie de scier la branche sur laquelle tu es assise. Donc tu vas trouver des circonstances.
Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de rabbins qui confortent certaines personnes en leur disant...
De rester.
C'est pas pour toi.
Même c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est trompé.
Non.
Ben oui.
Ils ont un genre de CDR en France.
C'est ça.
Ici, peut-être un peu galéré.
Ok, ok. Ok, ça c'est une réflexion humaine ou divine? Bien fait. Dieu me dit le contraire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Pour que l'État d'Israël soit viable aujourd'hui, du point de vue politique, du point de vue sécurité, du point de vue de plein de choses que des fois aussi on ignore,
il y a un travail à faire.
Ouais, non, il y a un travail au-delà de nos frontières qui sont faits par des gens hyper puissants qui sont juifs.
Dans la faiblesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous n'avons pas respecté les valeurs de Dieu, tu as créé un système où toi-même tu es dans la faiblesse, donc tu t'es créé un besoin de l'extérieur. C'est tout. C'est tout. C'est exactement pareil. C'est comme si tu me disais, je te reprends le sujet du Shabbat, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même le jour où ça marche le plus, donc je vais faire la moitié du Shabbat ici, et la moitié à la synagogue. Les gens, ils le font en France? Exactement. Quand on n'a pas le choix, on est tous d'accord. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui.
Vous avez vu que dans l'histoire, il y a quand même qu'il se passe une chose comme ça,
pour qu'on puisse
décider
à avoir un choix. Nachon. Mais à partir du moment où il est là, parce que c'est une prophétie et qu'un jour il doit être, tu ne peux plus renier ça. On est d'accord. Tant qu'il n'y a pas, il n'y a pas, c'est vrai. Mais à partir du moment où il y a, ne fais pas comme s'il n'y a pas. Alors c'est difficile, c'est tout ce que tu veux, d'accord. Mais Dieu, il a pris en compte ça aussi. Il sait que c'est difficile. Mais c'est sa mitzvah. C'est tout. Alors on peut discuter, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a une Torah écrite, il y a des versets. Je ne peux pas contredire, sinon il n'y a plus de fin. Sinon c'est l'homme qui crée une Torah. Alors là, ça devient subjectif, je me crée ma propre Torah, avec mes propres réflexions, et je me dis, voilà, l'ordre, il est comme ça. D'abord, je fais tchouva, après, je fais... C'est pas ce que Dieu faisait. Quoi? C'est écrit, c'est tellement la source de toute la Torah, que si tu l'écris dans les 10 commandements, c'est comme si tu crachais sur cette mitzvah. C'est la base de ta vie. Quand Dieu, pour la première fois, il rencontre le premier des Juifs, on va dire comme ça, même si c'est pas Abraham, de quoi il lui parle? Que de ça. Il lui dit, par toi, c'est tout ce que je te demande. Je t'ai rien demandé, ni de faire la Torah, ni de distribuer des beignets, ni d'allumer la Hanoukia à la place de Concorde.
Il lui dit, va physiquement.
Va, quitte, et va là-bas parce que je veux faire de toi une nation. Ça, c'est notre prophétie, c'est ça qu'on doit réaliser, c'est tout. Tout le reste, tu peux faire ce que tu as envie, tu montes et tu descends, ça ne parle que de ça. Yitzhak, la même chose, et Yaakov, la même chose. Jamais on leur a parlé ni de faire des mitzvot, ni quoi que ce soit. Il faut comprendre pourquoi. À tel point que le Rambam dit qu'on n'a jamais le droit de sortir de la terre d'Israël. Et qu'on a le devoir d'habiter ici, même dans une ville où tout le monde fait de la Avodah Zara. Et de ne pas habiter dans un endroit, en dehors d'Israël, où tout le monde va à la synagogue, étudie la Torah, il y a une ambiance, une communauté de folie. Okay? Une halakha. Et si toi et ta femme, mon épouse, je lui dis chérie, on monte, elle me dit non. Tiens, ton guet, shalom. Ben vadaï, c'est une halakha. Je divorce. Eh ben voilà. Ça, c'est en réalité ce que les gens ne vous enseignent pas.
Parce qu'il
y a des intérêts, tant que la personne est encore là-bas, elle veut garder sa communauté, malheureusement. Si je vous dis ce que le Zohar dit sur ces choses-là, ça fait peur. Mais là, on est sérieux, on est en train d'étudier la Torah. On sait ce qui s'est passé. Le 17 Tammuz, on sait ce qui s'est passé le 9 Av. Le 9 Av, Atem Bechitem Bechia Shel Chinam, vous avez pleuré pour rien, maintenant vous allez pleurer pour de bon. Comme ça dit Dieu.
C'est pas un Dieu d'amour.
Pas du tout. C'est vous qui avez fait cette dégradation. Moi, je vous ai donné une lumière. Cette lumière, si elle passe par un écran pourri que vous avez mis, vous allez recevoir une lumière, ma lumière, d'une manière très très sale. Très sale.
Tu sais que tu les punis pas pour leur faire du mal, tu les punis parce qu'ils ont besoin de confrontation.
C'est même pas ça. C'est même pas ça.
L'amour, c'est pas aller en la béatitude de dire c'est pas grave.
Tout à l'heure, le rabbin, il a dit c'est un Dieu qui nous fait du bien.
C'est pas bien.
Là, t'as fait comme ça, alors tu
vas. Pas du tout. T'as fait comme ça. Quand je te dis que t'as fait comme ça, moi je voulais traduire en français. Ça veut dire que ton prisme, comment tu t'appelles ?
Sarah.
Alors, Sarah, ton prisme aujourd'hui, moi je veux faire passer une lumière. Mais ton prisme, il est bouché, il est nerveux, il est en colère. Il est, je sais pas, t'as passé une matinée, okay, t'es venu ici, tout tordu. Qu'est-ce qui va rester de mon cours ? De la colère, un truc, une expérience mauvaise, un truc, parce que ton prisme n'est pas capable d'absorber le truc.
Mais c'est pas pour ça que vous allez me punir.
C'est pas moi qui punis, c'est toi.
Mais là, on parle de vous.
Non, non, c'est la même chose, Dieu me donne et c'est moi qui me punis quand je ne me mets pas à la portée de ce qu'il me donne.
Vous avez une image, tu vois, comme Faraday. Quand la lumière, elle vient, c'est qu'il y a une forme, donc Faraday, la lumière, elle est diffusée de cette forme-là. La forme, c'est nous.
C'est toi l'écran, c'est toi le filtre. Ça ne veut pas dire que Dieu, lui, l'a changé. Un coup, il s'est énervé. Ça, c'est justement une mauvaise interprétation et compréhension de la Torah. Tu crois qu'Akadosh, bon, il se lève le matin, à 6h, il est au top. À 8h, il n'a pas bu un café, il commence à être nerveux. À 10h, il se dit, il n'y a pas de changement chez lui.
Mais non, il y a quand même des choses dures, quoi.
Des choses ?
Noé.
Oui ?
Il a anéanti le monde.
Qui a anéanti ?
Pas du... envoyé l'eau.
Pas du tout. Pas du tout. Tu n'as pas lu le texte. Il s'est passé tout simplement que Dieu a voulu donner la Torah à cette époque. C'était la première tentative de la Torah. Il a ouvert toutes les cheminées du ciel et que le monde a refusé tout simplement ce degré-là. Et donc, comme il n'a pas mis les freins à toutes ces pulsions, eh bien, freiner en hébreu se dit « bolem », c'est devenu un maboul. Mais c'était de l'eau de bracha. C'était la plus grande des bénédictions, cette eau. D'ailleurs, il n'y a pas marqué, le mot Maboul ne vient que 40 jours après le début. Au début, c'est de la pluie. Ouais. Mais tu restes pourri. Ton filtre est tellement mauvais que ça devient Maboul.
Je savais qu'il allait avoir ça, puisqu'il a construit l'arche.
Ben Vadaï, il a reçu en prophétie.
Je savais qu'il allait avoir
ben Vadaï, lui, mais les gens le prenaient pour un fou. Lui, il le savait.
Est-ce que lui, il devait prévenir les autres ?
Oui, et il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Et c'est ce qu'on lui reproche, d'ailleurs. C'était une manière, mais c'était pas assez clair. Mais pas d'ailleurs. Et on lui dit, s'il était de la génération d'Abraham, il n'aurait pas existé. Abraham était tellement grand parce que lui allait prier même pour les gens de Sodome et Gomorre, qui étaient pourris, pervers.
D'ailleurs, on dit,
Ish Tzadik Tzamim Bedorotav. Ça veut dire, Rachou, moi je dis que c'était un tzadik. Mais il n'a pas averti, si ce n'est qu'en construisant là le degré, et les gens, pendant 120 ans, il a construit, hein. son arche. 120 ans, ça lui a pris. Les gens passaient, ils lui disaient, t'es un malade mental, quoi. T'es un malade mental. C'est comme aujourd'hui, ceux qui croient au messianisme. On les traite de malades mentaux. T'es un juif messianique, t'es malade. Eh bien, exactement la même chose. 120 ans, c'est long, hein. Tu viens un an, et encore un an, et tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Peu importe, mais lui, en réalité, il est en train de fabriquer un truc dans sa tête. Personne n'a reçu la prophétie, lui l'a reçu. Si moi, maintenant, je viens avec une donnée, tu vas m'écouter au premier degré ? Il a fait. Alors, pourquoi on va l'écouter à lui ? Il est seul dans son petit truc, dans la forêt, un fou. Il est en train de casser, faire pousser des arbres. Qu'est-ce que tu fais ? Dans 120 ans, il va y avoir des trucs, donc je fais pousser un arbre, je vais couper, après je vais monter un bateau. Et tous les animaux, je vais les faire venir.
Mais est-ce que Dieu, il va nous en vouloir que... d'avoir détourné le sens profond
encore une fois
en mettant par exemple un jour de Avnout, Tet Shabéa, est-ce qu'il va
non,
pas nous
non, 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 Dieu non, encore encore une fois, encore une fois vous prêtez des notions humaines à Dieu. Dieu n'a pas les notions humaines que vous, que nous avons. C'est pas pareil, c'est pas qu'il m'en veut ou qu'il ne m'en veut pas. Il m'a donné un potentiel ce jour-là et il attend que je réalise cette chose.
C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire, prenez pas au pied de la lettre ce mot que j'utilise.
D'accord.
Quand je dis, par exemple,
oui.
Et donc il attend dans la salle d'attente.
Exactement. Et exactement. Bons, exactement.
Votes, mais c'est pas tout à fait
exactement.
Et finalement, il répond. Alors, la prophétie qu'on
fait.
Si.
Non, mais à
oui. Parce que, alors, maintenant j'explique.
On fait tout sous travers.
Exactement. Mais, la lumière divine, elle passe. C'est ça que vous n'avez pas compris. Elle passe, mais comme vous êtes de travers, nous sommes de travers, elle passe par des difficultés. Mais si on était cohérent dans ce qu'on faisait, eh bien la même lumière passerait dans le cool, dans le tranquille. C'est pas que Dieu arrête son processus. Il n'a pas de changement, aucun. Donc il n'arrête jamais. Donc le Mashiach va venir, de toute façon, avec nous ou sans nous.
Mais celui qui est relié avec sa verticalité, celui qui est vraiment dans le rapport.
Celui qui est relié, il vit déjà le messianisme maintenant.
Il vit le messianisme, oui. Et qu'on le voit, et que par exemple, il n'est pas triste, il ne jeûne pas aujourd'hui, parce qu'il sait lui pourquoi il ne jeûne
ça,
pas.
Ça, c'est une anaga que tu n'as pas le droit de donner à tout le monde, tant que réellement sur Terre, les choses n'ont pas changé.
Mais si toi, tu le ressens.
Toi, tu le ressens, tu si peux le sentir. Baba Salé disait à tout le monde, moi je vis le Mashiach, je le vois, il est devant moi. Le Rabbi de Lubavitch disait, moi je vis le Mashiach, il est devant moi. C'est pas qu'il jeûne pas, il se met à la portée de tout le monde, parce que mon peuple est encore dans la... Donc je suis avec eux, mais moi je vis déjà. Je comprends pas pourquoi vous voyez pas. C'est ça qu'il nous dit. Quand toi tu es ouvert, tu es censé voir les choses. Je vais vous donner une image. Imaginez-vous un ballon. Okay ? À l'intérieur du ballon, il y a une petite ouverture noire. Une petite ouverture qui rentre dans le centre du ballon. Ok ? Il y a un deuxième ballon à l'intérieur. La même chose. Et il y a une autre ouverture de la même grandeur que la première. Un troisième ballon. Une même ouverture dans le ballon. Quatrième, cinquième, sixième, 10 ballons comme ça. Un dans l'autre. Je mélange. Les ouvertures sont n'importe comment. D'accord ? C'est exactement notre monde aujourd'hui, la panique. Le jour où toutes les ouvertures seront alignées, c'est le Mashiach. C'est tout. Et aujourd'hui, on est là pour aligner tout ça. Et pour aligner tout ça, il faut reprendre les choses à la base. Je ne peux pas me permettre de donner un cours du 17 Tammuz en venant pleurer, en vous disant, vous savez, les tables se sont brisées. Et je rentre à la maison et je vous ai dit, ça y est, je sais pourquoi on jeûne le 17 Tammuz. C'est parce que les tables se sont brisées. Pshh, magnifique. Alors qu'est-ce que tu as compris ? Comment tu répares tes tables à toi, pas à moi. Toi, tu as des tables à l'intérieur de... Comment ça se fait que tu les laisses se casser ? C'est ça le Inyan. Où je suis dans le processus ? Est-ce que le processus me rencontre ? Hier, j'ai lu une paracha, Bilham. Les sages nous disent dans la Gemara, Bilham, on va jouer avec les mots. Ils n'ont rien à faire, les sages, d'accord ? Chas v'shalom. Bilham, ça veut dire Bli'am. Quand tu as oublié Bli'am, ton peuple, tu deviens Bilham, toi-même. Parce que je m'occupe que de ma petite personne. J'en ai rien à faire de l'autre. Tu es devenu Bilham. Tu Toi, tu crois que Bilam, c'est un personnage qui a vécu il y a 3500 ans? T'as rien compris à la Torah. Alors, tout ce qui se passe, moi, je me pose la question. Pourquoi j'ai cassé mes tables? Deuxième degré. Pourquoi j'ai arrêté d'être tamid? Qu'est-ce que ça veut dire tamid? Régulier dans mon lien avec Dieu. Pourquoi j'ai toujours des hauts et des bas? Pourquoi je ne suis pas tamid? Toujours, toujours, toujours. Pourquoi je ne peux pas compter sur toi? Pourquoi un jour tu fais la gueule, un jour tu fais un sourire? Pourquoi? C'est exactement ce qu'on est venu réparer. On doit devenir divin sur terre. C'est pas plus agréable d'avoir quelqu'un qu'à chaque fois que tu le vois, il est à égalité, il te fait un sourire, toujours la même chose. T'en as pas marre des gens qui sont lunatiques? Tu peux pas développer quoi que ce soit avec eux. Vous comprenez comment on étudie la Torah? C'est ça le tamid. Avec Dieu, on n'a pas ça parce qu'il est régulier. Il m'a dit je t'aime, ça y est, je t'aime. C'est pas un jour je t'aime, un jour je t'aime pas, un jour tu... Ça n'existe pas, tamid. Boutal ha-tamid. Le tamid a été annulé. C'est possible. Non, non, non. Non. C'est pas une question de robot, alors ça veut dire que Dieu est robot. Et pourquoi? Mais c'est ce qui te demande de devenir. Amarti Elohim Atem. Pas du tout. Pas du tout. Si tu dis c'est impossible, ça veut dire que tu as abandonné.
C'est ça la sublimation de nos terres, de nos différences, de nos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que Hachem a créé l'ordre.
Non, non, non. Non, non. Akadosh Baruch Hu, il te demande de devenir régulier dans un monde irrégulier. Il te demande de trouver la ligne directrice, même dans un monde où il y a des hauts et des bas.
C'est pas nous qui créons notre réalité par rapport à justement, parce que nous on est irréguliers, comme on dit par notre pensée, par nos choses, etc. Et la journée va se passer, je parle pas de Lyon, je parle de notre vie.
Tu changes tes prismes.
Voilà.
Mais pourquoi tu gardes pas un prisme régulier qui est tout le temps dans le sadique?
Mais
c'est ça. Tu dis c'est pas possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas possible. Non, ça va dans le même sens que ce que Sarah a dit. Le Mashiach ne viendra jamais. Parce que c'est pas possible. Zélan Achron.
Ah, tu
peux me dire plus, il n'y a pas de souci.
Vous parlez d'être, comment on appelle ça?
Continue.
Dans le bon chemin, ça vous dit.
Ben voilà. Mais c'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan. Quand je dis un changement, ça veut dire un jour tu vas faire ta tefila comme ça, un jour tu vas faire ta tefila comme ça. Pourquoi c'est pas régulier dans ton intensité? Pourquoi t'es pas divine? Pourquoi tu te fais des remises et tu te dis ouais c'est comme ça, je suis comme ça, de toute façon je suis pourri, Dieu ne pourra jamais me corriger, moi yesser, c'est moi yesser. C'est ça que tu es en train de dire. Mais oui, mais moi j'exagère, mon travail c'est de faire une caricature. Il y a fait. Il y a fait. Non, c'est pas qu'on accepte, c'est que je dois transformer ce rat et je dois le ramener du côté du bien. C'est-à-dire que j'utilise. D'accord. On est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de rat. Dans l'absolu, le mal n'existe pas. Le mal, c'est un manque de bien. C'est tout. Là où tu ne fais pas dévoiler cette lumière dont je parle, c'est là où se trouve le rat. Et ça, c'est le yetzer. Mais toi, tu peux travailler ton yetzer. C'est ça, de ça que je dois parler. Et après
on ne voit pas le combat, entre guillemets, d'éteindre.
Non, non, parce que c'est pas la Torah. C'est pas la Torah. Ça, c'est une mauvaise Torah. Tu deviens triste, tu deviens austère, tu deviens noir, tu deviens... Chas v'shalom. Qui t'a dit de la Torah, c'est ça?
Mais vous dites les gens lunatiques, mais on est quand même perméable à ce qui se passe autour de nous.
Tout à fait.
C'est difficile de se détacher. Pour pas être lunatique, il faudrait qu'on soit détaché, insensible à ce qui nous entoure.
Pas du tout. Pas du tout. Je dois savoir avoir deux caméras. La caméra de ce que je vois dehors et la caméra de ce que je sais que tu es dedans. Toi, dedans, je t'aime. Tes actions dehors, c'est possible que je n'aime pas. Et si tu ne sais pas faire les différences entre tes actions et l'être en question, tu as la pourrie. Un enfant qui a fait une bêtise hier, ton fils ou ton petit-fils ou ta petite-fille, tu lui dis pas « je t'aime pas ». Ce que tu viens de faire, c'est pas bien, mais toi, tu es bonne, tu es un sadique. C'est une grande différence. Si je n'ai pas ces deux caméras, eh bien, je vais tout salir. À chaque fois que tu fais quelque chose de pas bien, je te raille de mon truc. Enfin, c'est pas comme ça. Donc, je vous dis la même chose au niveau du jour. C'est pas parce que ce jour s'est révélé, parce que nos filtres ont été sales, comme il s'est révélé jusqu'à maintenant, qu'on est foutu, qu'on va rester comme ça. Puisque la prophétie me dit que ça va être annulé. Ça veut dire que Dieu me permet et va, je vais réussir, puisque c'est une prophétie, à changer le système et à retrouver la véritable lumière qui se trouvait et qui se trouve toujours. Le 17 Tammuz et le 9 Av. C'est une question de temps. Pour moi, pour Dieu, le temps n'existe pas. Troisième degré. Ouvkea Aïr, la muraille de Jérusalem a été brisée. Vous voyez qu'on est en train de sortir, c'est des cercles qui sont en train de s'élargir. Qu'est-ce que c'est que la muraille? Une protection. C'est-à-dire toutes tes protections, à partir du moment où tu n'y crois plus, où tu n'as plus cette sincérité, cette régularité avec Dieu, tu es en train de briser sans t'en rendre compte quoi? Tes murailles de protection. Regardez l'intelligence de nos sages. Si tu restes au premier degré, tu te dis, ouais, il s'est passé plein de choses, oh là là, c'est bizarre la ville, la pauvre de Jérusalem, ils ont dû rentrer, les Romains, machin, t'as rien compris au truc. Est-ce que t'empêches les Romains aujourd'hui de rentrer en toi? Parce que tu es trop perméable. Tu fais pas attention à garder ta vraie structure. Tu es devenu une éponge où tu prends toutes les informations, peu importe d'où elles viennent. C'est ça, avoir une brisure dans ta muraille. Il faut que tu bouches vite les trous. Tu as une identité, tu as une personne, tu as une personnalité, tu fais partie d'un peuple, tu as une Torah. Elles sont où toutes ces valeurs? Comment ça se fait que tu es pénétré partout? Quatrième degré. Apostemus saraf et ta Torah. De là à brûler la Torah, ça y est, c'est fini. Une fois que tu es ébréché dans tes murailles de protection, ta Torah n'est plus ce qu'elle était. Tu te poses des questions, tu te dis, ouais, peut-être qu'ils ont raison quand même. Ils commencent à rentrer des idées. Donc tu es en train de brûler ta Torah sans la brûler avec une allumette. Hein. Tu brûles toutes les données de base pures de ton être. Parce que tu n'as plus la différenciation entre toi et une autre culture. Entre le jour et la nuit, entre Shabbat et les jours de la semaine. C'est ce qu'on fait, Moshe et Shabbat, la Havdala. Tu ne sais plus faire de Havdalot, de distinction. Tu n'as plus de différence dans ta tête. Ça s'appelle le post-modernisme. Tout le monde a raison. Donc personne n'a raison, on ne sait plus. Okay? La mère du soldat qui vient de se faire tuer, elle pleure. La mère du terroriste qui a fait l'attentat et qui a été tué, elle pleure aussi. Oh là là, deux mères qui pleurent, on va aller faire la shiva chez les deux mères. C'est ça qui se passe. T'as plus de référence, t'as plus rien. Qui est devenu fou. Et finalement, Hu'amad Tselem Ba'echal, la cinquième chose, on a mis une statue à la place de Dieu. Ashrina, c'est fini. C'est plus Dieu qui est au centre de ta vie. C'est un tselem. Qu'est-ce que c'est tselem? Une ombre. Une photo. Siloum. Ça s'appelle une avodah zara. Tu t'es créé un bon Dieu. Tu t'arranges avec lui comme tu veux. Fini. T'as perdu toutes tes références. Voilà ce qui s'est passé le 17 Tammuz. Regardez les cinq choses. C'est très facile. Entre nous. Si j'ai compris ces cinq choses, je dois corriger ces cinq choses. Comment je commence à corriger d'après vous? J'enlève le tselem du Echal et je remets Dieu à la place, oui ou pas? Ou alors je commence par le début? Il vaut mieux commencer par le début. Hein. C'est-à-dire? Les tables se sont brisées. C'est à cause de ça Donc on a une règle, quand tu veux régler un problème, va à la source. Quand il y a un problème du veau d'or, je reviens, je ne t'ai pas oublié, qui c'est qui peut réparer le veau?
La vache.
La maman. Sa source. Donc la vache rousse.
Ah.
Vous avez compris? Sinon, ce n'est pas un petit poule chorèche. C'est pas un petit poule qui va jusqu'au bout. Tu mets des plasters, des pansements sur des jambes de bois. C'est du n'importe quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ce veau d'or? Parce qu'on a fait le veau d'or le 17 Tammuz. Okay. Alors, dans la réalité, c'est quoi?
Un veau en or.
Un veau en or. À quoi il ressemblait, un veau? Alors, il avait deux têtes, que vous le sachiez. Ouais. Il n'y avait pas d'arrière. D'un côté, il était masculin, d'un côté, il était féminin. Et un veau et une, je ne sais pas comment on dit, sa femelle. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont dit de ce veau d'or? Elle est au pluriel, maintenant vous comprenez pourquoi. Elohecha, tes dieux, au pluriel, Israël. Voici tes dieux, tes nouveaux dieux. Ok, là je comprends toujours pas. C'est très très fou. Deux, parce qu'on va essayer de comprendre. Tout de suite, je vous explique. Pourquoi? Justement, je suis en train de vous expliquer. Qui représente le veau dans la Torah? Qui est le représentant humain du veau?
C'est le taureau.
Pareil, c'est le taureau, on appelle ça le taureau. Choro, chor. D'accord? Chor, c'est Yosef. Qu'est-ce que c'est que Yosef? Il représente quoi, Yosef? À part être un personnage qui a vécu dans la Bible.
Le
Yesod. Qu'est-ce que ça veut dire, le Yesod? La Brit Mila chez l'homme. Ok? Chez la femme aussi. L'endroit qui donne la vie. Ok? Par lequel la vie est donnée. Il représente des forces de l'infini ou des forces de ce monde? Non. Non. De ce monde. Yosef, c'est les forces de ce monde. Qui maîtrise quand il s'appelle Yosef. Mais quand c'est un shor, parce qu'on l'appelle shor, quand son père lui a fait une bracha, il a dit Bechor shoro hadar lo. Qui c'est shoro, son shor à lui, son veau à lui, Yosef. Ça veut dire que Yosef, il a des pulsions tellement fortes au niveau de la matière qu'il est difficile de les contrôler. Quand la femme de Potiphar est venue pour le séduire, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont des forces tellement humaines que celui qui n'arrive pas à dompter ces forces-là, il va se créer en fait un autre Dieu en lui. Ses pulsions. Ça va être son nouveau Dieu, donc il va les servir. À chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose, et ça s'appelle un autre Dieu, chez toi. Donc l'homme, Chas v'Shalom, a des pulsions, il ne peut pas se contenir, il ne peut pas se retenir, c'est comme si un Dieu était là, lui dire, fais ça maintenant. Et donc il va obéir à ses pulsions, il va être faible. Quand Moshe a disparu, Moshe représente quoi? Les valeurs d'en bas ou d'en haut? D'en haut. Moshe est reparti. Il est reparti pour quoi d'ailleurs?
Pour chercher
les tables.
Matériel.
Donc je parle du 17 Tammuz. Il est descendu quand? Le 17 Tammuz. Mais d'après leur compte à eux en bas, il s'est trompé de 6 heures. C'est marqué dans le texte. Vayaram ki bo shesh. Il y a 6 heures de décalage entre le temps où ils ont calculé qu'ils descendraient et le temps. Le Yetzer Hara, leur propre imagination, leur a fait voir Moshe mort dans un cercueil. C'est-à-dire, ils se sont dit, maintenant, arrêtez les images et les films, science-fiction, ils se sont dit, ça y est, il n'y a plus de force qui nous représente d'en haut. Nous, on va se créer une force qui vient d'en bas. C'est-à-dire, la matière va devenir Dieu. Et donc, je vais créer l'animal qui représente la plus grande des pulsions, Yosef, dans ce monde, et c'est cela que je vais servir. À partir du moment où tu changes, tu prends la place de Dieu en mettant toi-même ton propre Dieu, celui de tes pulsions, tu es mort, c'est fini. C'est exactement le 17 Tammuz. Yosef Hatzadik, vous croyez que c'était un homme qui était tzadik depuis le début et qui c'était pas difficile pour lui? Vous savez que quand, excusez-moi de rentrer dans les détails, quand la femme est venue le séduire, les gouttes qui devaient sortir par là où vous savez, sont sorties par ses doigts. Tellement c'était attirant. Tellement il était dans la faute. Et il s'est retenu au dernier moment. Et il est sorti du système. C'est pour ça qu'il a reçu son degré de tzaddik. Yesod Olam, le fondement du monde. Mais Chas Veshalom, cette force-là, elle est en lui. S'il ne savait pas prendre cette force et l'utiliser avec cette puissance pour le bien, il l'aurait utilisé, tombé pour le mal, comme ils ont fait dans le veau d'or. Donc le veau d'or, en réalité, ça enlève la droiture divine et ça nous laisse dans le monde dans lequel nous sommes. Ce monde-là dans lequel nous sommes, il est rectiligne ou circulaire? Le monde de la nature, il est circulaire. Il n'est que circulaire. Trouvez-moi une ligne droite dans l'univers. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est arrondi. Il n'y a rien de droit. Un rayon laser, une balle que tu tires, ça n'existe pas, la ligne droite. Il y a une seule ligne droite virtuelle dans ce monde. Il s'appelle Yachar El, Israël. Nous sommes la seule droite que Dieu a gardée comme souvenir de ce qu'il représente lui, la droiture. Tu sors Israël de ce monde, le Yachar. Tu sors le Yachar, tu enlèves le Yachar de ce monde. Il ne reste que les cercles, puisque ce monde est circulaire. Comment on appelle le cercle? Igoul, Kreta Egel. La faute du veau d'or. C'est la faute de la séparation de la droiture divine, de la circulation de ce monde. C'est-à-dire que ce monde devient en réalité qu'une bague où tu es enfermé, étouffé, étranglé, et tu ne pourras jamais t'en sortir. Il n'y a plus rien qui puisse corriger. Et toutes ces chas v'shalom, ces angoisses et ces machins, on est foutus, ils sont trop forts pour nous, tout ce que vous entendez, tout ce que vous dites. Tout ça, c'est chas v'shalom, comme si vous avez dit à Dieu, t'as raté ta création. Ton yosher, ta droiture ne peut pas venir sur terre. Chas v'chalila. Vous êtes dans cet état? Non. Vous devez être dans la simcha, de faire partie de ce yachar el, Israël, qui apporte la droiture divine dans le monde circulaire. Et donc tu sors du cheta egel. Sinon tu es dans le cheta egel, traduction réelle, la faute du cercle. Et chet ne veut pas dire faute, veut dire raté. Les arti en hébreu. Donc j'ai raté la droite, je suis dans le cercle. Chet en hébreu. Les arti est un matara. J'ai raté ma cible. C'est ça la notion de chet. C'est pas faute. Faute en français, t'entends rien. Tu sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quand tu devais tirer à un endroit précis, t'as raté. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Faire venir la rectiligne, tu as utilisé ce terme tout à l'heure, j'ai bien aimé, c'est important, je vais t'expliquer pourquoi aussi, dans un monde circulaire. Comment on dit rectiligne en français? En hébreu, pardon. Vous allez voir comment l'hébreu qui vous manque, c'est la ligne, mais la rectiligne. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça que je dis que les gens qui n'ont pas appris l'hébreu complètement, convenablement, ils sont dans un retard, mais c'est pas grave, c'est à combler. Hein. Vos enfants, vos petits-enfants, ils vont, ça y est, ils ont déjà réparé ça. C'est très simple, c'est les premiers mots du don de la Torah. Anochi. Anochi, ça veut dire quoi? C'est rectiligne, ouvrez un dictionnaire. Anachi veut dire rectiligne. C'est la même chose, c'est anochi. Ça veut dire, quand je dis anochi, qui est traduit dans vos livres à vous, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Anachi, rectiligne. La même chose. Anachi, rectiligne. Aleph Nun Chaf Yud. Voilà, elle cherche, comme ça c'est confirmé. Aleph Nun Chaf Yud. C'est ça? Voilà, merci. La verticale. Ça veut dire, Dieu nous descend à la verticale parce qu'il est la droiture même dans notre monde circulaire. Et si je refuse ce anochi, cette rectiligne, eh bien je fais un veau d'or. Donc, la table qui était censée porter cette force, qu'est-ce qui se passe? Elle se casse. Pourquoi elle se casse? Pourquoi les tables se sont cassées, vous savez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? De facto, qu'est-ce qu'il y a fait mort? Il y a fait mort. Voilà, elle a étudié. Les lettres par Hu Haotiyot. Les lettres se sont envolées. Pourquoi elles se sont envolées? L'esprit a quitté la matière. Et au moment où il n'y a plus de paix entre l'esprit et la matière devient lourde. On ne peut plus la forcer. Donc elle tombe, elle se brise, c'est fini. Moralité, il n'y avait plus de Neshama. Dieu s'est dit, j'ai fait une tentative, entre guillemets, mais je la fais quand même, je la fais. Parce que je veux qu'ils aient une première, un premier contact. Je veux qu'ils rencontrent le texte. C'est comme quand j'étudie avec mes élèves, avec un texte. Première fois que je lis, je les vois comme ça. Je dis, c'est pas grave, on a rencontré le texte. Ne vous angoissez pas. Et là, on va reprendre. Et après, le texte, oh, t'as l'impression qu'il devient éclairé, tout est éclairé. Ça, c'est la force de l'étude. Au départ, tout est fermé, t'as l'impression qu'il y a un pavé, un bloc, tu sais même pas ce qui se passe. Et au fur et à mesure, tu fais sortir. On dirait que les lettres, ce sont des oiseaux, et dès que tu les touches, ça commence à vivre. Eh bien, c'est exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui. Le 17 du mois de Tammuz. 17, vous savez quelle valeur numérique c'est? C'est le tort, c'est le bien. Dieu ne veut que notre bien. Le problème, c'est tes filtres, mes filtres. C'est moi le problème. À chaque fois que Dieu me fait passer une lumière, j'offre un filtre. Vous changez les filtres de vos masganim de temps en temps? Vous mettez un petit produit antibactérien, machin, c'est très important. Mettez du Dettol. Quel? Parce que l'air qui circule, lui, il vient, il est pur. Mais quand il passe par ce filtre, il peut te pourrir la vie. Eh bien, le filtre du Mazgan, c'est toi. Prends le filtre, la prochaine fois que tu le nettoies, tu marques « moi » en gros. Et de temps en temps, tu l'enlèves, tu te dis « là, là, je suis sale, hein ».
Comment tu nettoies?
Hein? Eh bien, tu le mets par terre. Je t'explique, écoute-moi, écoutez-moi jusqu'au bout. Tu le mets par terre et tu mets plein d'eau dessus, la Torah. Pourquoi vous me coupez à chaque fois que je veux dire un truc? Dès que j'ouvre la bouche, non. C'est la même chose. C'est parce que c'est le même nettoyage. Je dois asperger cette réchette. Je ne sais pas comment on dit en français, cette grille avec l'eau de la Torah. Je dois étudier, je dois réétudier, je dois retrouver mon texte. Clicra?
Le mikvé.
Exactement. C'est ça le mikvé. C'est par l'eau que les choses se nettoient. Parce que l'eau, c'est l'élément le plus pur qui soit. Parce que l'eau n'a pas été endommagée. Parce que l'eau n'a pas de verset dans la Torah où il est dit qu'il a été. Que les eaux ont été créées. C'est bizarre quand même. Est-ce que vous connaissez un verset dans la Torah où il y a marqué « Et Dieu a créé l'eau » ? Ah, ça commence à devenir intéressant. Hein ?« Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim » et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Mais attends, d'où vous êtes sortis, vous ? Alors vous savez ce que c'est les eaux ? Au pluriel, maïm. N'achon? Comment on dit au singulier?
Ça n'existe pas.
Si, ma. Comme en arabe, l'ma. C'est l'eau en arabe, ma.
C'est pour ça qu'on a la mer des fois qu'on a des questions.
Exactement. Ça veut dire que le pluriel de l'eau, le singulier des eaux, c'est ma. Et le pluriel, c'est maïm. Et ma, c'est la question. Ça veut dire que c'est par tes questions que tu peux étudier une vraie Torah. Et quelle est la valeur numérique de ma?
45.
Adam. Ça, c'est le véritable homme. Et encore plus, Géoula. 45. La Géoula, c'est quand tu commences à poser les vraies questions dans ta vie. T'as pas peur de poser des questions. Que toi-même, tu deviennes une question. Pas que tu poses des questions. Que toi, tu aies une question.
C'est une question, hein.
C'est ça.
Non, mais c'est pas sécurisant, quoi.
Encore une fois, tout ce qui est fatigant, parce que j'entends souvent, c'est dur, c'est difficile, c'est fatigant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le aimer. C'est tout. Il faut savoir où tu cherches la chose.
Je croyais que le aimer, ça s'apparentait au shalom.
Non, non. Il y a deux degrés. Ha-emet, ve-ha-shalom, ha-tzedek. Il y a plusieurs degrés. Si c'était le même degré, il y aurait eu un seul mot. Ça, c'est la force de la Torah. Alors, un jour, j'ai cherché un diamant, il était là. Un tout petit diamant, 3 carats. Sympa quand même. Bien. Il y avait un tas de sable. Et je cherchais. Et je ne trouvais pas. Au bout de 2 jours, il restait encore un tas comme ça. J'ai amené tous mes copains, tous mes voisins. Tous les voisins sont descendus, ont commencé à chercher des petits morceaux de sable comme ça pour trouver. Au bout d'une semaine, avec des tamises, rien du tout. Il y a mon copain qui vient qui me dit, mais Yoël, tu es sûr que tu as perdu le diamant ici? Je dis non, là-bas je l'ai perdu. Il me dit, mais alors pourquoi on cherche ici depuis une semaine? Il dit, parce que c'est le seul endroit où il y a un lampadaire. Vous avez compris la bêtise de nos vies? Voilà, c'est ça. Toi tu as vu une petite lumière, on t'a mis un éclairage sur un truc, ça y est, t'es plongé la tête, les jambes, tout dedans. Alors que le problème, il est là-bas. La vérité, elle est là-bas.
Mais c'est qui le remarque à une lampadaire ici?
Mais ça, j'ai dit à mon copain qui a construit une maison à Lyon, en même temps que moi, je construisais ma maison en Israël. Et je lui ai donné cette histoire. Il me dit, tous les vendredis, il me dit, j'ai une réunion de travail, ça se passe très bien, c'est magnifique. Et moi, toi, si moi, j'ai pas avancé, les ouvriers, ils sont pas arrivés. C'est la panique. Il me dit, mais tu vois la différence, tu vois? Je vais te raconter une histoire. Et je lui ai raconté cette histoire-là. Hein, tu construis en réalité ta maison là où il y a un éclairage, mais c'est pas au bon endroit. Moi, c'est difficile, mais c'est à la vraie place. C'est ça que vous ne comprenez pas.
Est-ce que c'est difficile parce que c'est à la vraie place?
Bevadaï.
Est-ce qu'il y a des intérêts à ce qu'on ne réussisse pas dans ce qu'on veut faire quand on a trouvé la vérité?
Non, il y a un intérêt à ce que ça vienne par la difficulté pour sortir de toi ton association avec la chose, que tu sois participant à ta propre Géoula. Si vous donnez à un enfant à fabriquer un avion, il va le garder. Si vous lui avez acheté l'avion au canyon, au bout de 5 minutes, il n'existe plus. C'est tout. Un jour, on a posé la question au Rav Kook. Un grand Rav, en dehors d'Israël, est venu chez le Rav Kook, lui a dit, Kvod Rav, avec tout le respect, je connais votre Torah. Vous dites que tout le monde doit être ici. Mais regardez la souffrance qu'il y a ici. Il n'y a pas moins de souffrance que ce qu'il y a dehors. Il a dit, tu as raison. Il dit, alors pourquoi tu nous demandes de venir? Il dit, parce qu'il y a 2 femmes qui sont allongés sur 2 lits dans la même chambre à l'hôpital. Et les 2 poussent des hurlements de souffrance. Il y a une seule différence. Il y en a une qui est mourante et l'autre qui est en train d'accoucher. Ça, c'est le judaïsme en terre d'Israël. On est en train d'accoucher. Alors ça fait mal, mais ce n'est pas l'autre souffrance de la mort qui aboutit nulle part. Il faut que vous compreniez qu'on est dans un processus très compliqué, mais il est vrai. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'il vient des difficultés. Shalosh matanot natan akadosh baruchu ubekulam isurim. 3 cadeaux nous a donné Dieu et ils sont tous avec la difficulté. Eretz Israël, Olam Abba et Torah. Et c'est de plus en plus dur parce que la situation est en train de se dégrader. Apparemment. Comme Moshe, quand il est venu chez Dieu, après avoir été envoyé chez le pharaon, il va chez le pharaon, Dieu lui dit à Moshe, tu es le Mashiach. Tu es le Mashiach. Il dit, tu es sûr, c'est moi hein? Oui, tu es le Mashiach. Vas-y, va chez Pharaon, tu commences à faire le travail. Au bout de 2 mois, Moshe, il revient chez Dieu, il dit, mais attends, tu te moques de moi. Avant que j'arrive chez le pharaon, c'était tranquille. Depuis que je suis arrivé, c'est de plus en plus noir, de plus en plus dur. Et je ne vois pas du tout de Géoula. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre maintenant. On n'a jamais autant parlé du Mashiach et le monde n'a jamais été aussi noir. Alors comment ça marche? Alors j'ai dit dans un cours la semaine dernière, et gardez-le pour vous. J'arrête avec ça. Quand vous avez mangé à Pessah, à un moment donné, vous avez fait ce qu'on appelle un korech. Ça fait partie des 15 simanim. Korech, c'est un sandwich entre deux matzot. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Du maror. Et qu'est-ce que représente le maror? L'amertume. Et qu'est-ce que représente la matza? La geoula. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais un sandwich où il y a de la geoula et de l'exil en même temps? Et tu manges les deux? Il dit, parce que pendant que tu sortiras dans la geoula, tu mangeras en même temps de l'amertume. Mais ne crois pas que c'est de la galoute. C'est autre chose, c'est nouveau. Fais ce sandwich, tais-toi, mange. Tu vas manger de la geoula et en même temps des difficultés, mais c'est de la geoula. Ça, c'est le secret. Alors ne tombez pas dans le piège de l'angoisse, de la mélancolie, du désespoir, de la dépression, de Chas v'Shalom, c'est fini, on est foutu, on n'a jamais, on n'y arrivera jamais. Non, ça c'est pas du judaïsme. Moi je suis là pour vous donner une piqûre d'optimisme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est optimiste. Parce qu'il a créé ce monde pour réussir et personne ne pourra y faire quoi que ce soit pour arrêter. On peut retarder, on peut montrer des filtres pas très beaux, mais c'est pas grave, la lumière elle passe. Alors tâchons une seule chose de faire, c'est de nettoyer nos filtres. Toda Rabba.